Radio Prague, les informations.
Mirek Topolánek se dit satisfait de la présidence tchèque de l'Union européenne. Les membres du Parti ouvrier ont manifesté à Litvinov. En patinage de vitesse, la tchèque Martina Sablíková est devenue championne du monde dans le 5000 mètres. Le Premier ministre Mirek Topolánek se dit satisfait de la façon dont la République tchèque assure sa première présidence de l'Union européenne. Il a déclaré dans un débat diffusé ce dimanche sur la chaîne de télévision privée Prima. D'après lui, les Tchèques ont confirmé leur qualité d'animateur des débats au sein de l'Union, tout en sachant imposer leurs objectifs. Pour Mirek Topolánek, la présidence est une occasion unique de montrer les Tchèques en tant que population dotée d'un humour spécifique et plus européenne que beaucoup d'autres, en dépit de l'étiquette eurosceptique qui lui est si souvent collée. Ce dimanche, 70 ans se sont écoulés depuis le début de l'occupation de l'ancienne Tchécoslovaquie par l'Allemagne. À l'occasion de cet anniversaire, une vingtaine de membres du Parti national se sont réunis à Prague pour se rappeler cet anniversaire. Selon le chef de file de cette formation nationaliste, Petra Edelmanova, le Parti national a ainsi ouvert sa campagne avant les élections européennes. Une manifestation de l'extrême droite a eu lieu ce dimanche dans la ville de Litvinov. Quelques dizaines de membres du Parti ouvrier se sont réunis au centre-ville pour protester contre la situation dans le quartier de Janov, un des quartiers problématiques de la ville, où vit notamment la population rome. Ivan Langer, ministre de l'Intérieur, et Jacques Barrot, commissaire européen pour la justice, les affaires internes et la sécurité, se rendent aux États-Unis. Lundi et mardi, ils discuteront avec la partie américaine du sort ultérieur des prisonniers détenus à la base de Guantanamo. La politique de visa, la protection des frontières, la migration et l'utilisation des technologies modernes, voilà les questions qui seront également au menu de leur conversation. Sur le départ, Otra Zeni de Václav Havel a été proclamée la meilleure pièce originale de l'année 2008. Elle s'est vue décerner cette distinction lors de la cérémonie de remise des prix Alfred Radok aux meilleures créations et pièces de théâtre 2008 qui s'est déroulée samedi à Prague. En patinage de vitesse, la Tchèque Martina Sablíková a remporté la médaille d'or au championnat du monde qui se déroulait à Vancouver au Canada devant deux Canadiennes. C'est pour la troisième fois que la patineuse tchèque devient championne du monde dans sa discipline préférée. Météo, ce dimanche, le ciel demeurait couvert, il sera presque couvert aussi ce lundi, le jour de fête de Helena et de Herbert, selon le calendrier local. C'était le journal présenté par Alena Gebertova. Ah!
Culture sans frontières, Anna Kubista.
Bonjour, bienvenue à cette nouvelle rubrique culturelle sur Radio Prague. Philippe Ducrot est un homme de théâtre québécois. Auteur, acteur, metteur en scène, mais aussi photographe, il sillonne la planète pour alimenter son écriture. S'il écrit sur la guerre en Yougoslavie, il part sur place. S'il choisit de parler du conflit israélo-palestinien, il est également dans la région où il va à la rencontre des gens. Et pourtant, ce n'est pas du documentaire ni du reportage. C'est le regard d'un artiste sur les choses de ce monde qui suscite l'interrogation. Philippe Ducrot était à Prague en prévision de la 8e édition du festival Afrique en création qui commence mercredi prochain. Il est l'invité de Culture sans frontières cette semaine. Philippe Ducrot, vous êtes invité de ce festival Afrique en création, ici à Prague. Une de vos pièces va être jouée dans le cadre de ce festival qui s'appelle Boulevard Sauvé. Et cette pièce s'inscrit en fait dans un projet qui est intitulé « À la maison ». Ce projet de 3 pièces sera joué le 20 mars prochain à l'Institut français à Prague. Est-ce que vous pourriez me parler un peu de ce projet un peu particulier ?
Le projet se compose de 3 textes très courts, de 20 minutes chaque, qui tournent autour du thème de la maison. C'est une coproduction entre 3 compagnies, les productions 3C, la compagnie 3C, c'est-à-dire du Togo, de Lomé, dirigée par Rodrigue Normand, le théâtre du Mantois de Mantes-la-Jolie, qui est une banlieue de Paris, dirigée par Eudes Labruse et Jérôme Imard, et ma compagnie, Hôtel Motel de Montréal, que je dirige moi-même. Chacun est directeur artistique, donc Eudes Labruse, Rodrigue et moi, on a écrit un court texte autour du thème de la maison qui devait être joué par 2 comédiens. Et le but, c'était d'aller monter le spectacle à Lomé, au Togo, en Afrique de l'Ouest, et de le diffuser dans les maisons, dans les domiciles. Donc, c'est du théâtre à domicile. On joue chez les gens, dans leur salon, dans leur salle à manger. Et du coup, on a triché un peu. On a joué aussi dans les bibliothèques, dans les universités, sur les places publiques et tout. Et c'est dans les festivals et tout. Et c'est ce spectacle-là qui sera joué en intégral. Donc, les 3 parties qui sera jouées ici... pour 2 représentations en République tchèque à Prague et je me souviens pas où...
À Hradec Králové.
Et qui est joué par Jérôme Imard et par Rodrigue Normand lui-même.
Alors, 3 auteurs justement de pays et de continents différents, je suppose que vous avez des perceptions de la maison ou du chez-soi ou de l'appartenance complètement différentes, j'allais dire même vous en particulier, puisque vous êtes québécois. Les Québécois sont d'origine française, mais transplantés en Amérique. La notion d'appartenance doit être quand même très particulière selon ces différents textes.
Bon, c'est sûr que nous, les Québécois, ça fait très longtemps qu'on ne se sent plus d'origine française, mais qu'on se sent bel et bien d'origine américaine. Donc l'Amérique, je parle du continent et non de ce qu'on appelle confusément l'Amérique comme étant les États-Unis. Donc ce rapport-là à la France ne fait plus du tout partie de notre mode de vie, à part par le fait qu'on parle encore français. Sinon, oui, toute l'appartenance à la maison est vécue complètement différent d'après les 3 continents. Chez nous, entre autres, il y a plein d'aspects de cette maison-là, mais entre autres, moi, étant donné que je savais que le spectacle allait être joué en Afrique, j'ai pris un malin plaisir à faire que l'action se passe la journée de Noël. Il fait moins 30 degrés Celsius dehors, c'est extrêmement froid, et il y a une partie de mon texte qui parle simplement des méthodes qu'on a d'isoler nos maisons face au froid, et du fait que la pièce parle entre autres d'un vieillard qui est une 3e personne dont on parle, qui lui est très pauvre et qui n'a pas isolé ses fenêtres et donc les fenêtres sont pas, le type en question a froid et se réchauffe devant sa cuisinette finalement, devant son four comme on dit chez nous. Donc c'est ça, oui, effectivement, je pense que la maison est vue de trois façons complètement différentes. Et en plus, les 3 pièces sont sur 3 registres aussi complètement différents. La première est plus de l'ordre de la farce. La deuxième est une pièce plus absurde. Donc, et la mienne est déjà beaucoup plus... Bon, je finis la soirée avec quelque chose d'un peu plus, disons, sérieux et dramatique. Un peu plus coup de poing, finalement.
D'après ce que j'ai pu comprendre un petit peu par rapport aux différents thèmes que vous abordez dans vos pièces, alors je pense à l'affiche qui est une autre pièce qui parle de l'oppression, enfin de l'occupation en Palestine, voilà, ou cette pièce Boulevard Sauvé, ou encore d'autres, les thèmes d'actualité. Je pensais aussi à Srebrenica, vous en parliez tout à l'heure justement. Ouais. Vous avez des thèmes extrêmement actuels. Est-ce que c'est important pour vous de parler de cette actualité? C'est quelque chose, vous sentez en résonance avec ce monde, vous avez besoin? Un besoin intime d'en parler?
Oui, j'ai définitivement un besoin intime, je trouve que c'est bien dit, j'ai un besoin intime de parler de ça. On me dit souvent que je parle de choses qui sont très loin, et pourtant, moi, j'ai l'impression de parler de moi. À chaque fois que je parle de ces trucs-là, je me sens très, très impliqué dans ça, je sens un grand sentiment... Je ressens un grand sentiment de responsabilité face à ce qui se passe à travers le monde, et je trouve que l'artiste a tranquillement, au fil des deux dernières décennies, a laissé sa place à quelque part a laissé sa place dans la situation civique du monde, sa place de citoyen pour parler de d'autres sujets qui étaient probablement très importants à l'époque. Moi, je revendique à quelque part aussi le retour du citoyen dans le travail artistique et la prise de responsabilité que nos sociétés qui découle du mode de vie de nos sociétés par rapport au mode de vie des autres sociétés. Ça m'est aussi très intime parce que j'ai l'impression d'être franchement un citoyen du monde. Je me suis formé en tant qu'être humain et en tant qu'artiste beaucoup sur les routes, dans une espèce d'errance, un mode de vie un peu nomade. Et donc j'applique cette vision du monde-là et cette construction intérieure et très personnelle qui m'est propre à mon art. Effectivement, j'ai l'impression d'avoir, quand je prends la parole sur scène, d'avoir besoin d'avoir réellement quelque chose à dire et peut-être naïvement d'avoir besoin de dire quelque chose qui m'est urgent ou qui est une position de moi par rapport à ma société internationale ou locale. Quand on prend la parole, je trouve qu'il faut qu'on ait quelque chose à dire. Étant donné que le théâtre est un art de communication, je tiens, quand je prends la parole, à avoir réellement quelque chose à dire, finalement.
Alors, en plus, vous vous alimentez de vos voyages, hein, vous l'avez dit. Vous êtes un vrai globe-trotteur. D'ailleurs, le nom de votre compagnie évoque le voyage. Vous n'avez pas l'impression d'être un peu un espèce de troubadour des temps modernes?
Oui, troubadour, oui. Oui, c'est un beau terme, troubadour. Définitivement, une espèce de... je fais partie de ces mouvements de ces nouveaux nomades-là. J'ai commencé à voyager assez jeune. À un moment, je me suis dit que j'allais arrêter de voyager pour pas que le voyage devienne une fuite, à moins que le voyage ne soit relié directement à un projet artistique. Je me suis mis à voyager encore plus que jamais. Et c'est toujours, tout à coup, ça s'est mis à débouler. Il y a dans ma... Je pense que dans la communauté québécoise, il y a une place qui était libre, que j'ai pris, qui est de ce besoin de faire miroiter notre mode de vie avec le reste du monde. On est rendu à une étape dans notre vie neuve de pays neuf, où on a, je pense, le besoin de se positionner par rapport au reste du monde. Alors, je me suis retrouvé à quelque part à remplir une place et à remplir quelque chose qui probablement qui était en réponse, à mon propre milieu, mais qui était en moi aussi parce que mon milieu est rendu là aussi.
Vous disiez que vous trouvez triste qu'aujourd'hui les gens estiment que les poètes sont des personnes un peu risibles. Est-ce que le monde est devenu aussi cynique?
En France, il y a eu un mouvement. Je trouve qu'Olivier Py en fait partie en ce moment avec le Déon, la Garce et tout ça. Il y a eu un mouvement de réhabilitation du poète qui a du poète dans son mode de vie, pas nécessairement de celui qui écrit des vers ou des poèmes et qui publie des recueils de poésie. Chez nous, je sais pas comment c'est en France, mais chez nous, c'était un peu risible. Donc les gens se moquaient beaucoup des poètes. Il y avait aucune, la poésie est pas lue. C'est ce qui est vendu le moins dans les maisons d'édition. Les gens s'intéressent pas à la poésie. Donc moi, j'ai jamais publié de recueil de poésie. Peut-être que je le ferai un jour. J'en écris des poèmes, mais c'est surtout la place de la poésie dans mon travail d'artiste. Donc mon roman est un roman de poète. Mes pièces sont des pièces de poète. Et donc ce positionnement-là, c'est quelque chose que j'ai envie de revendiquer. Le poème de la vie, le poème du mode de vie et la poésie dans tout son côté subversif aussi, où les mots deviennent les pierres les plus efficaces à lancer. Je trouve que c'est au travers de la poésie. Et donc ça, oui, j'ai le goût de ramener, mais ça se fait tout seul, hein, mais aussi je fais partie d'une tradition américaine de théâtre. En ce moment, il y a un mouvement très fort vers le naturalisme, David Mamet et compagnie chez nous, au Canada, au Québec et à Montréal particulièrement. Il y a plein de gens, il y a tous les styles de théâtre, mais il y a cette prise de parole-là de réalisme. Moi, je revendique aussi la prise de parole, le mot. J'aime beaucoup les mots. Même si je méfie beaucoup des mots, je suis un dyslexique, je fais beaucoup de dyslexie. Et j'ai toujours eu un rapport très étonnant. C'est très étonnant que je me retrouve à être auteur en ce moment. J'ai toujours eu un rapport très étonnant aux mots et à la grammaire, au français. Moi, j'étais bon en mathématiques quand j'étais jeune, j'étais pas bon en français. Mais j'abordais les mathématiques avec art, probablement, et je me retrouve à écrire maintenant pour gagner ma vie. C'est peut-être le dyslexique en moi. On me dit que des fois, ma dyslexie génère énormément de poésie. Alors, je l'accepte.
Juste pour terminer, une petite curiosité. J'ai lu que vous avez fait une lecture au Festival du Jamais Lu. Et une des salles où vous avez lu s'appelle Opatrovich, qui est en tchèque, à l'étage supérieur. Comment se fait-il qu'il y ait une salle avec un nom aussi tchèque à Montréal?
C'est drôle parce que nous, on dit le Patrovice. Donc, on ne sait même pas que c'est Patrovice. Je viens de l'apprendre à l'instant même. Patrovice, qui est une salle, une espèce de salle de cabaret, de spectacle, où il y a le Festival du Jamais Lu, qui est un très beau festival de nouveaux textes, donc de textes qui n'ont jamais été lus au théâtre. Et c'est un festival de lecture. Le Patrovice, comme on le dit chez nous, est en haut d'un autre bar qui s'appelle le Billy Coon.
Le cheval blanc.
Et donc, et le Billy Coon, le propriétaire du Billy Coon est un brasseur et il y a une bière qui s'appelle, il y a un bar et il y a une bière qui s'appelle le cheval blanc. Donc, le premier bar de ce brasseur-là s'appelait le cheval blanc. Et je sais pas, lui, peut-être qu'il est d'origine tchèque ou en tout cas, parce qu'il y a tous les petits accents là, que vous avez dans la manière que c'est écrit chez nous, il y a vos accents. Et donc, oui, il y a le Billy Coon qui maintenant est, qui a été le deuxième bar, qui a très bien marché, et ensuite il y a eu le Patrovice. C'est ça?
C'est comme ça.
Je dirais le Patrovice, là, rien à voir. Ça va bien faire rire, mes amis, d'ailleurs.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était donc le dramaturge, acteur et metteur en scène québécois Philippe Ducrot qui était l'invité de Culture sans frontières cette semaine. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ahoy.
Daja kini abugi, dala laji wala bugi, tara zara dala jinni, miskina jerjina, wala ba gala bina, kala zumra gali jingi, kala zumra gali jinde, agrata gali jingi, dala ta gala bina, dala yi gala bigo, tunjo dola jene, dala gali ne jene, abara wai di, dala di bila dinga, dala ta gala mide,
Vous avez dit la République tchèque. Voyagez donc, Jarka Gisubelova.
Bonjour et bienvenue à tous à l'écoute de cette nouvelle édition de l'émission touristique de Radio Prague. Cette fois, je vous invite à Lany, une petite commune s'étendant dans la région romantique de la forêt de Křivoklát, à moins de 50 km à l'ouest de Prague. La visite de cette commune est inspirée par deux anniversaires commémorés ces jours-ci, anniversaire de deux éminents hommes politiques qui ont vécu et qui sont inhumés à Lany. Le premier président tchécoslovaque, Tomáš Garrigue Masaryk, né le 7 mars 1850, et son fils Jan Masaryk, ministre des Affaires étrangères, décédé le 10 mars 1948. Puisque le château de Lany, résidence estivale des présidents tchèques, n'est pas couramment accessible aux visiteurs, nous nous rendrons au musée de Lany, qui nous apprend l'histoire de la famille Masaryk. Magdalena Mikeskova nous servira de guide.
První patro patří především expozice osobnosti T.G.
Masaryka. L'exposition au premier étage est entièrement réservée à la personnalité de Tomáš Masaryk. On commence par sa jeunesse, sa famille, son père slovaque, ses études, suivent les années de Masaryk professeur, Masaryk et la Première Guerre mondiale, et Masaryk et ses séjours à Lany.
T.G. Masaryka, první světová válka, pak Masarykův pobyt v Lánech.
L'exposition au musée nous apprend, par exemple, que le château de Lagny a été acheté à la famille Fürstenberg pour être aménagé en résidence estivale et en second siège officiel du premier chef du nouvel État tchécoslovaque. Le château de style baroque, manié au début du XXe siècle, lorsqu'on lui ajoute un étage et une mansarde, a été choisi comme résidence présidentielle par une loi adoptée en avril 1920. Avec l'arrivée de Tomáš Garrigue Masaryk, il a subi une vaste modernisation dans l'esprit de la nouvelle démocratie, entreprise par l'architecte slovène Josip Plečník, qui est aussi l'auteur de remaniements au château de Prague.
Lagny était la résidence favorite de Masaryk. Il y passait plus de temps qu'au château de Prague et à chaque fois qu'il retournait d'un voyage, il disait « je rentre à la maison » ayant à l'esprit Lagny.
En 1935, Tomáš Garrigue Masaryk renonce pour des raisons de santé à ses fonctions de président et toute la famille se réfugie à Lagny. Le musée abrite de nombreux objets personnels, comme les robes de Charlotte, l'épouse américaine du président, dont il a pris le nom Garrigue, chose tout à fait rare à l'époque. On y apprend par ailleurs que le père de Charlotte Garrigue était issu d'une famille de souches huguenotes, ce qui explique le soutien apporté par les Masaryk à la fondation de l'église unitaire en Bohême dans les années 1920. Il y a ensuite les photos de leurs enfants, Alice, Herbert, Jan et Olga. Dans la vitrine, on admire les uniformes du président, ses bottes de cavalier, son chapeau Panama ou encore les affiches de légionnaires créées pour les Tchèques et les Slovaques d'Amérique. Parmi tous ces objets, notre guide s'arrête devant une acquisition relativement récente.
La plus grande fierté de notre musée, c'est le costume de cavalier authentique du président Masaryk. Le musée l'a acquis de la famille de M. Krejza, jardinier du président Masaryk. Il s'agissait probablement d'un don personnel du président de la République. M. Krejza, qui avait beaucoup d'estime pour le président, entretenait avec piété ce costume. Dans les années 1990, ses enfants en ont fait don au musée de Lagny.
Minulých let my jsme získali v 90. letech darem právě od rodiny Krejzů.
Le musée Masaryk a été ouvert il y a tout juste 6 ans, le 7 mars 2003. L'idée d'installer un musée Masaryk à Lagny est née aussitôt après 1989. Une petite exposition organisée alors dans la salle des Sokol a connu un grand succès. Ensuite, une fondation pour le futur musée a été créée et le musée a pu ouvrir ses portes 12 ans plus tard. À part le musée Masaryk, la commune de Lagny offre aux visiteurs d'autres expositions encore. Ainsi, une collection de voitures historiques est à voir au musée des automobiles situé droit sur la place de Lagny. Dans les alentours de la commune, les touristes peuvent découvrir les vestiges d'un chemin de fer à traction hippomobile, le deuxième plus ancien sur le continent européen. Comme l'observe notre guide, une petite maison pas loin du musée Masaryk abrite la salle d'Alice Masarykova.
Tento domek nechala postavit Alice Masaryková v roce 1928.
Alice Masaryková a fait construire cette maison en 1928 pour la succursale locale de la Croix-Rouge. À l'époque, c'était un établissement social modèle qui a servi notamment de centre de consultation pour les mères avec enfants.
Vzorný sociální dům, většinou zde byla poradna pro matky s dětmi.
Aujourd'hui, on trouve dans cette maison des salles commémoratives d'Alice Masaryková et de la Croix-Rouge tchécoslovaque dont elle est devenue en 1919 la première présidente, raconte Magdalena Mikesková.
Grâce à Alice Masarykova, la Croix-Rouge tchécoslovaque a effectué un immense travail. Des sanatoriums et de nouvelles écoles pour infirmières ont été fondées. La Croix-Rouge est venue avec des programmes de convalescence pour enfants malades et avec des plans de prévention de la tuberculose. Elle a initié des campagnes de promotion de l'hygiène dans les écoles. Toutes ces activités menées par la Croix-Rouge sous la Première République tchécoslovaque ont été longtemps ignorées.
Avant de quitter l'Annie, les visiteurs peuvent encore se promener dans le parc du château, aménagé dans le style anglais et s'étendant aujourd'hui sur une superficie de 110 hectares. Pour la plupart d'entre eux, la visite de l'Annie se termine au cimetière local.
Nous sommes devant le tombeau de la famille Masaryk. Le président Tomáš Garrigue Masaryk a été enterré ici le 21 septembre 1937. En même temps, on y a déposé le cercueil de son épouse Charlotte, décédée en 1923. À leur côté reposent leur fils Jan et leur fille Alice.
Là s'arrête la visite de la commune de Lani, étroitement liée à la famille Masaryk. C'est aussi la fin de cette demi-heure en français sur Radio Prague. Nous vous remercions de votre attention et de votre fidélité. Passez une bonne semaine. Je vous dis au revoir. Naschledanou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9850 kHz and every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9855 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz.